Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis.
Hillary Clinton revendiquant mardi soir devant une foule de partisans enthousiastes à New York sa victoire aux primaires démocrates. C'est le titre 1 de cette édition du Monde Aujourd'hui de ce mercredi 8 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson, bonjour. Il y avait hier des primaires dans 6 États et ce qui était un autre super mardi. Bien avant même que nous soient connus tous les résultats des primaires dans 6 États, dont le New Jersey qu'elle a remporté et la très importante Californie, Hillary Clinton s'est adressée à ses partisans pour marquer ce tournant historique en Amérique. Jean-Roger Bion.
L'investiture historique de Hillary Clinton ne sera bien entendu officielle qu'après le vote des délégués à la convention du Parti démocrate à Philadelphie au mois de juillet. Son rival démocrate, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a pas encore jeté l'éponge. Il a reçu hier un appel du président Barack Obama, qui a aussi téléphoné à Mme Clinton, son ancienne secrétaire d'État, pour la féliciter. Dans son discours de victoire, elle a déclaré hier soir « Les ponts sont meilleurs que les murs », une allusion au projet de Donald Trump, son probable adversaire républicain en novembre, de construire un mur à la frontière mexicaine. Ce dernier, parlant plus tôt dans la soirée, a lancé une attaque énergique contre Mme Clinton, l'accusant de trafic d'influence quand elle était au département d'État. Selon les médias américains, Mme Clinton a déjà le soutien des 2383 délégués dont elle a besoin pour être investie à la Convention démocrate. Ils incluent les fameux 571 superdélégués qui sont libres de voter pour qui ils veulent. Bernie Sanders pense en convaincre assez pour changer d'avis et l'appuyer en lieu et place de Mme Clinton.
Bernie Sanders a dit qu'il rencontrera à sa demande jeudi le président Obama. Hillary Clinton a rassemblé un nombre suffisant de délégués pour être assurée d'obtenir l'investiture grâce à ses victoires mardi dans les primaires du New Jersey, du Nouveau-Mexique et du Dakota du Sud. Une heure après la fermeture des derniers bureaux de vote en Californie et après le dépouillement d'un tiers des bulletins, elle faisait également la course largement en tête dans cet État où Bernie Sanders a concentré ses efforts ces deux dernières semaines pour décrocher une victoire de prestige.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
La suite de l'actualité maintenant, Anne.
Un haut responsable de l'ONU, directeur des opérations sur le terrain auprès du haut-commissaire pour les droits de l'homme, a démissionné pour protester contre la totale impunité dont jouissent les casques bleus qui ont violé des enfants en Centrafrique. Éric Manirakiza.
La nouvelle a été annoncée par l'ONG UN Watch dans un communiqué. Anders Kompas s'insurge contre tous ceux qui ont abusé de leur autorité. Il a également désapprouvé le manque de volonté de la hiérarchie d'exprimer tout regret. Selon lui, ceci confirme que l'ONU n'a pas l'habitude de rendre des comptes. Dénonçant donc la totale impunité, il a jeté l'éponge en regrettant qu'il lui soit impossible de continuer à travailler dans ces conditions. En 2014, le Suédois a favorisé la fuite d'un rapport confidentiel de l'ONU sur les abus sexuels dont sont victimes des enfants parce que l'ONU tardait d'agir. Le dernier rapport de Ban Ki-moon de 2015 a enregistré 69 cas d'agressions sexuelles. La MINUSCA en Centrafrique et la MONUSCO en RDC se sont illustrées en cumulant plus de la moitié des cas. L'ONG UN Watch a estimé que Ban Ki-moon et Zeid Ra'ad al-Hussein, le patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, doivent des excuses à M. Kompas, considéré comme héros dans sa tentative de protéger des enfants violés.
Les Ivoiriens sont désormais situés. Le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne aura lieu en septembre-octobre prochain. Bagassi Koura.
L'annonce a été faite hier par le président Alassane Ouattara lors d'une rencontre avec l'opposition au palais présidentiel à Abidjan. Ce référendum sera suivi par les élections législatives en novembre et décembre prochains. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara. réélu pour un second et dernier mandat de 5 ans en octobre 2015, selon les dispositions de l'actuel texte fondamental. Le président a mis en place début juin un groupe d'experts qui ont un mois pour faire leurs propositions. De sources proches de la présidence citées par l'AFP, outre la clarification de l'éligibilité, la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la suppression du poste de Premier ministre ou l'établissement de calendriers électoraux immuables sont également à l'étude. Présent au palais présidentiel mardi, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le Front populaire ivoirien, s'est lui montré sceptique. « C'est mal parti », a dit le président du parti fondé par Laurent Gbagbo.
Trois journalistes nigériens sont emprisonnés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours administratif impliquant d'importantes personnalités. Des détails avec John Lyndon.
L'affaire de fraude révélée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées fait grand bruit. Des personnalités ont fait placer des protégés sur la liste des admis à un concours de la santé publique alors que ceux-ci n'avaient pas obtenu des notes suffisantes ou n'avaient même pas passé les épreuves. L'imprimeur du journal Le Courrier, Soumana Idrissa Maïga, par ailleurs journaliste et patron de presse, a été placé en garde à vue lundi. Une arrestation qui fait suite à la détention depuis samedi d'Ali Soumana et de Moussa Dodo, propriétaire et directeur de publication du même journal. On accuse les journalistes de publication de documents parce qu'ils ont fait paraître les facsimilés de listes envoyées par des personnages éminents de la société nigériane au directeur des administrations des agents de la santé publique. Dans la liste des personnes soupçonnées d'avoir influencé les résultats des concours, il y a la première dame, la présidente de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major général des armées et le ministre du Pétrole, souligne Reporters sans frontières.
En République démocratique du Congo, trois ans après son lancement en novembre 2013, le gouvernement a rendu public le rapport sur l'opération Likofi qui vise à traquer le banditisme urbain, communément appelé Kuluna. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait un bilan des condamnations et acquittements et des dossiers envoyés à différentes instances. La MONUSCO et plusieurs ONG avaient dénoncé des exactions sommaires. Mais Évariste Boshab assure que l'opération Likofi a été menée avec professionnalisme et a obtenu l'adhésion de la population. Tout en reconnaissant que des policiers auteurs de dérapages ont été arrêtés et traduits devant la justice, M. Boshab a précisé au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
J'ai bien dit qu'il y a des personnes qui ont succombé dans cette opération. Des personnes qui ont manifesté une résistance farouche vis-à-vis des forces de l'ordre et qui ont même utilisé des armes à feu. Face aux morts, je m'en tiens au respect de ces personnes succombées et je dis que le gouvernement ne viendrait pas présenter ici le nombre de morts comme un trophée. J'ai demandé au bureau de droits de l'homme ici à Kinshasa de venir me déposer la liste des victimes. Posez-leur la question, quel est cet ONG qui m'a déposé la liste? Moi, je connais le nombre de victimes enregistrées et ces victimes sont celles qui ont opposé de la résistance à la police. Puisque ces ONG prétendaient avoir des très longues listes, des centaines, j'ai demandé qu'on me dépose les listes, mais jusqu'à ces jours, aucune ONG ne m'a déposé une liste. Mais vous pouvez qu'on leur dit, et celles qui sont présentes ici, s'il y a une liste, comme ils l'opposent maintenant même.
C'était Évariste Boshab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République démocratique du Congo.
Merci Anne. Maintenant, sur le plan international, un avion de reconnaissance américain a été intercepté de façon dangereuse par un appareil chinois au-dessus de la mer de Chine orientale, a annoncé, selon l'AFP, un porte-parole de l'armée américaine en minimisant toutefois l'incident. Deux avions de chasse Ji ou Jaiten se sont retrouvés à courte distance d'un RC-135 américain qui patrouillait, a indiqué le porte-parole du commandement des forces américaines dans le Pacifique, David Benham. L'un des chasseurs chinois effectuant l'interception volait trop près de l'appareil RC-135, a-t-il ajouté, sans préciser quand les faits s'étaient déroulés. D'après une première analyse, il semble qu'il s'agisse d'un cas de manque de professionnalisme, puisqu'il n'y a eu aucune autre manœuvre provocante ou dangereuse, a-t-il ajouté. La Chine, le Japon et Taïwan se disputent la souveraineté territoriale sur des îlots de la mer de Chine orientale. L'ex-banquier de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, 77 ans, croyait mardi en la victoire à l'élection présidentielle au Pérou, malgré une avance infime sur Keiko Fujimori, et alors que le résultat définitif tardera encore plusieurs jours après le dépouillement de 99,08 des bulletins, M. Kuczynski, le candidat de centre-droit, obtenait 50,16% des voix contre 49,84% à sa rivale de droite, fille de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, actuellement emprisonné pour crimes contre l'humanité.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco avec Maëlys Hegel.
Le groupe bancaire Société Générale va bientôt lancer une nouvelle offre à destination des populations non bancarisées dans 6 pays africains, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar et Sénégal. Le groupe français veut créer une offre reposant sur un réseau fédérant petits commerçants et partenaires. Cette information nous provient de nos confrères de Jeune Afrique. En République démocratique du Congo, hausse du tarif des données Internet mobile de 35 à 500% selon les opérateurs et les offres. L'un des opérateurs de téléphonie concernée a démenti toute décision coordonnée ou injonction des pouvoirs publics, mais parle d'une hausse au coût réel de l'Internet mobile en RDC. L'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications a promis une réponse aux médias. Afrique du Sud, le pays attire les entrepreneurs du nucléaire français. Une délégation d'hommes d'affaires français revient tout juste du géant africain. L'Afrique du Sud veut se lancer dans la construction de 6 à 8 centrales d'ici 15 ans. Le but, produire 9600 mégawatts d'électricité pour pallier à son manque chronique d'énergie. Un projet ambitieux pour lequel 5 pays sont en lice, dont la France.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le tour de la RDC reprend la route.
Oui, après les étapes annulées dans l'est de la République démocratique du Congo, après le départ de Kisangani, les coureurs reprennent la route, comme nous l'explique Serge Mukendi Moussassa, de notre partenaire en RDC, Top Congo.
Après l'étape de Kisangani, la première de ce tour, cap sur le Congo central avec mercredi la deuxième étape longue de 80 km entre Kimpese et Kisantu. Jeudi, troisième étape entre Kisantu et Kinshasa, à Mitendi plus exactement, un parcours de 100 km. Quatrième étape le vendredi entre Kenge et Bukangalonzo sur une distance de 72 km. Le samedi, il est prévu le parcours Nsele, Ndako et Apembe de 60 km. Et enfin, un circuit fermé de 90 km le dimanche à Kinshasa, et c'est bien entendu cette étape qui va clôturer ce quatrième tour cycliste international de la RDC. Serge Mukendi Moussassa, Top Congo pour la VOA.
Allez Idrissa, on va parler football. À présent, la Copa América, le centenaire, la compétition se déroule pour l'occasion ici aux États-Unis. Les résultats de la nuit avec vous.
Les États-Unis ont superbement réagi après leur inquiétante défaite dans le match d'ouverture de la Copa América 2016 face à la Colombie 2-0 en punissant le Costa Rica 4-0 mardi à Chicago. Maintenant, infatigable Francesco Totti.
Francesco Totti, capitaine et légende de l'AS Rome, a signé un nouveau contrat hier d'un an pour son club de toujours, avec lequel il va donc disputer, tenez-vous bien, une 25e saison. Totti, qui aura 40 ans au mois de septembre, a débuté en Serie A avec la Roma en 1993. Il a disputé 601 matchs de championnat d'Italie sous le maillot milanais. Seuls Paolo Maldini et Javier Zanetti ont joué plus de matchs en Serie A que le capitaine de la Roma.
Forfait de Gezebe Dibaba à Oslo, c'est de l'athlétisme.
Oui, ce meeting aura lieu jeudi pour le compte de la Ligue de Diamants. Eh bien, l'Éthiopienne Gezebe Dibaba, la championne du monde en titre du 1500 mètres, est forfait, mais les organisateurs n'ont pas précisé s'il s'agissait d'une blessure. Autre défection de marque pour Oslo, la Bahreïnienne Djebet Ruth sur 3000 mètres steeple d'origine kenyane. Ruth, 19 ans, avait réalisé le 28 mai à Eugene la deuxième performance de tous les temps en 8 minutes 59 secondes et 97 centièmes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les primaires américaines, Hillary Clinton a revendiqué hier soir sa victoire aux primaires démocrates, bien avant même que tous les résultats des six primaires de mardi ne soient connus. Assurément, et elle l'a dit elle-même, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une femme est investie par l'un des deux grands partis. Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville note qu'il s'agit effectivement d'une autre première après l'investiture et l'élection il y a 8 ans du premier Africain-Américain Barack Obama à la Maison-Blanche. Le professeur Caesar.
C'est vrai, c'est un moment historique, c'est important et elle va mettre l'accent sur ce fait, hein, parce que ça joue très bien avec des votants qui sont femmes.
Mais tout n'est pas joué. Bernie Sanders, son rival démocrate, ne jette pas l'éponge. Il pense pouvoir convaincre les super-délégués qui devront voter à la convention du Parti démocrate. Est-ce que Bernie a des chances de convaincre ces super-délégués?
Alors, je dirais presque impossible. Il y a une possibilité, c'est la possibilité qu'elle va être accusée par le département de justice pour ce qui est arrivé avec les messages et ses problèmes avec l'ordinateur. Alors, je crois peut-être qu'il reste comme candidat plus ou moins actif en vue de cette possibilité. Et s'il est candidat actif, il aura une meilleure chance que s'il concède l'élection. Et donc, on peut dire que c'est cette possibilité-là qui reste la seule chance pour lui.
Pouvez-vous nous expliquer ce problème ou cette question des super-délégués par rapport aux délégués qui sont choisis pendant les primaires?
Alors, les super-délégués, ce sont des membres du parti, les gouverneurs, les maires, etc. Et l'important, c'est qu'ils ne sont pas engagés. Ils sont libres, selon les règles, de voter comme ils veulent. Donc, la plus grande partie de ces super-délégués, ils ont dit, par les sondages et par la discussion, ils ont dit qu'ils vont voter pour Hillary. Mais il y a toute la liberté de changer de revue. Ce qui est arrivé, en fait, il y a 8 ans, quand plusieurs super-délégués ont commencé en disant qu'ils allaient voter pour Hillary, et puis ils ont changé d'avis quand Obama a reçu beaucoup de voix dans les primaires. Donc, ils ont la possibilité de changer. Mais dans le cas que nous, aujourd'hui, c'est peu probable que ça va arrêter.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la disparition le 3 juin dernier du champion Mohamed Ali, né Cassius Clay. Nous reviendrons sur la légende de la boxe qui aura définitivement marqué son sport et au-delà, mais aussi sur l'homme, ses engagements et ses coups de gueule. Ses obsèques auront lieu vendredi avec un parterre de personnalités pour lui rendre un dernier hommage. Qui était Mohamed Ali? Quelles traces laisse-t-il dans le monde et en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Ouverture aujourd'hui à Bruxelles d'un conclave de l'opposition congolaise autour d'Étienne Tshisekedi. Toutes les tendances y sont représentées. Moïse Katumbi et son G7, la dynamique de l'opposition. D'autres plateformes et, c'est possible, Vital Kamerhe, qui lui n'est pas encore sur place. La société civile doit aussi participer à ce conclave de 2 jours. Eddy Issango a joint à Bruxelles le porte-parole d'Étienne Tshisekedi, Bruno Tshibala.
C'est une conférence de toutes les forces politiques acquises au changement en vue de discuter des problèmes qui concernent la crise qui sévit en République démocratique du Congo.
Qui prend part à cette conférence?
Toutes les composantes des forces politiques et sociales acquises au changement. Je citerai le G7, donc le groupe de 7 partis, ils sont déjà tous là. La dynamique de l'opposition avec son modérateur, Joseph Olengankoy, M. Martin Fayoulou, M. Gilbert Kiakoma Kiakiziki, et vous avez bien d'autres membres de la dynamique qui sont déjà là dans la capitale. Vous avez les alliés de l'UDPS, vous avez l'alternance avec les Clément Kankou, Vidier et Tshimanga. Vous avez tout ce monde-là est ici à Bruxelles. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, sera présent. Tandis que pour M. Kamere de l'UNC, je ne peux pas confirmer qu'il sera là ou il ne sera pas là.
De quoi sera-t-il question lors de ces conclaves? On sait qu'un dialogue est en préparation, mais une partie de l'opposition n'en veut pas.
C'est important de structurer, d'unifier l'opposition et la société civile qui est acquise au changement. Et donc il s'agira de comment rassembler l'ensemble de forces politique acquise au changement, comment arriver à, avec les avis, les observations de chacun, d'arrêter les stratégies pour arrêter la crise politique qui s'est vue au pays et conjurer le chaos qui se profile à l'horizon. Évidemment, il y a une procédure pour arriver à tout cela. Nous, nous sommes attachés au dialogue. Le dialogue fait partie de l'ADN de notre pays, de notre peuple. Et donc, nous allons aller au dialogue pour rechercher un consensus sur le processus électoral, mais dans le respect de notre constitution et des délais. Et voilà pourquoi nous sommes ici à Bruxelles. Vous comprenez qu'il y a l'impératif de l'unité de force du changement.
Vous parlez des stratégies du dialogue, alors que les PPRD, lors de son dernier rassemblement, à l'occasion de l'anniversaire du président Joseph Kabila, a fait état d'un possible référendum pour que le président puisse rester au pouvoir.
Si M. Kabila ne comprend pas qu'il doit s'en aller, le peuple congolais va prendre ses responsabilités, il va assumer son destin. Je pense qu'il devra le regretter parce qu'en plus de 10 ans de pouvoir, il a accumulé, il a droit à mener le reste de sa vie comme sénateur à vie, il aura des émoluments. Mais s'il veut défier le peuple congolais pour une troisième fois, alors vous comprenez que le peuple se laissera faire, c'est lui qui aura à le regretter.
C'était Bruno Tshibala, porte-parole d'Etienne Tshisekedi et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
L'État camerounais demande aux réfugiés centrafricains de regagner leur camp ou de retourner dans leur pays à cause de l'insécurité grandissante dans l'est du Cameroun. Près de 250 000 réfugiés séjournent dans cette région, nous dit notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Les habitants de Gado-Badjere, zone frontalière à la Centrafrique située dans l'Est Cameroun, assistent ces derniers jours à des cas de vol, des prises d'otages et cambriolages.
Ce que nous vivons ici présentement, nous ne l'avons jamais vu. Tu pouvais laisser ta chose là dehors, le matin tu reviens trouver. Maintenant ce n'est plus le cas. Étant même là, à la maison, on sait que tu es là, on veut forcer seulement.
Il y a toujours des petites agressions qui se passent dans des villages, des coupeurs de route, des ci par là, donc on ne peut pas quand même dire qu'on est en paix quand il y a les problèmes de l'insécurité.
La population de Gado accuse les réfugiés centrafricains venus s'installer dans les localités. Paul Danata, conseiller municipal de Gado-Badjere, s'indigne de la situation.
Dans le camp de Gado, il y a plus de 40 000 réfugiés, ce qui fait que la surveillance est très difficile. Il y a des enquêtes et des sorties. Ces derniers vont dans des brousses, ils font des exactions, des coupeurs de route, et ils reviennent, ils replient dans leur camp. Ce qui fait que la population de Garoua-Boulay est obligée maintenant de remonter vers la ville. Ils ne peuvent plus vivre dans des brousses afin de cultiver parce qu'ils sont en insécurité. Dans les camps, vous retrouvez surtout les musulmans, mais les chrétiens sont ancrés dans nos quartiers, nous vivons ensemble avec eux. Ce qui fait que le risque d'insécurité est très élevé. Surtout le risque du VIH-SIDA même parce que toutes les filles de la Centrafrique sont là. Et leur moyen de subsistance ici, c'est la bordellerie.
Les conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés seraient l'une des raisons du manque d'adduction d'eau potable, d'accès limité aux centres de santé et la famine. Face à cette insécurité grandissante, l'État camerounais demande aux réfugiés de regagner les camps ou de rentrer chez eux. Mais beaucoup, comme Deng Deng, ne sont pas prêts.
Je ne compte pas retourner en RCA. Je n'ai même pas espoir là-bas parce que j'ai déjà tout perdu. Et moi, ma vie doit se finir ici au Cameroun.
Il y a environ 250 000 réfugiés centrafricains au Cameroun qui attendent le retour total de la paix pour retourner au Bercail. Moki, Edwin Kinzeka. Pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, les autorités font face aux vengeurs du delta du Niger et aussi à Boko Haram. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a contacté le professeur Tundono Amosu de l'Université de l'État de Lagos.
Nous avons deux questions ici. D'abord, il y a le pétrole, ensuite il y a la religion. Le pétrole, on pourra toujours discuter parce que de toute façon, on sait que le pétrole, dans un certain sens, c'est la vie. Cela pourrait quand même avoir une influence positive sur les affaires du pays. Boko Haram, avec leur conception de la religion, évidemment, ce sont des dévoyés. Il faut les traiter comme tels. Donc, si le gouvernement a accepté, dans un certain sens, de négocier, de discuter avec les vengeurs, comme ils disent, du Delta, ce serait peut-être une bonne idée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui émettent déjà des réserves en disant que de toute façon, tous ces gens qui viennent de paraître sur l'échiquier ne sont pas vraiment les meilleurs éléments avec lesquels on pourrait discuter.
L'équation se complique dans le Delta avec cet appui apporté au groupe armé des vengeurs du Delta du Niger par le mouvement pour la réalisation de l'État souverain du Biafra, un groupe sécessionniste. Comment le gouvernement va gérer cette situation?
Ceux qui militent en faveur du Biafra, je crois que ce sont des gens qui n'ont pas tout à fait compris ce qui s'est passé il y a 50 ans de cela. J'étais à l'école et je sais que ceux qui ont vécu cette période ne sont pas du tout prêts de recommencer. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment approfondi la question. Et je crois qu'on ne peut pas dire que c'est le même combat avec les vengeurs du Delta. Les gens du Delta, je crois que tout simplement ce sont de nouveaux éléments qui veulent un peu que les choses s'améliorent de toute façon qu'il y ait davantage d'intérêt de la part fédérale pour ce qui se passe dans la région.
Le président nigérien Muhammadu Buhari devait effectuer le tout premier voyage de son mandat dans le Delta, mais ce voyage a été annulé. Quel est le sentiment à ce sujet là-bas?
Ben, le sentiment, c'est qu'on aurait quand même pu voir le président dans cette région. Je vous rappelle qu'il devait venir à Lagos. Tout le monde était prêt à Lagos. On avait engagé des dépenses énormes et au dernier moment, il n'est pas venu. La raison de cela, on vient de l'apprendre, c'est qu'il a mal. Donc, il doit quand même se faire soigner. C'est vraiment dommage qu'il décide d'aller à l'étranger pour se faire soigner, alors que le Nigeria ne manque pas de médecins, de spécialistes en tout genre.
Le professeur Tundonu Amosu de l'Université de l'État de Lagos. Au Mali, la direction régionale de la protection civile de Bamako vient de boucler la formation de 528 jeunes dans le cadre de la mise en place d'un réseau communal des secouristes volontaires. Kassim Traoré.
Ils sont 528 jeunes de la commune 5 formés dans le cadre du réseau des secouristes volontaires pour renforcer la résilience à travers le volontariat et l'engagement citoyen. Parmi les 528 formés figure le président du conseil communal de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako, Ibrahima Maïga.
C'est une formation qui a véritablement changé ma vie, et tout comme les jeunes que vous voyez ce soir. Au-delà de ça, nous avons étendu cette action à d'autres couches, les chauffeurs, les transporteurs, mais aussi les karatékas. Donc ces gestes de premier secours leur permettent, tant bien que mal, d'intervenir à leur manière aussi pour apporter un soulagement à ces jeunes.
Cette formation a été possible grâce à une collaboration entre le conseil communal de la jeunesse et la direction régionale de la protection civile de Bamako. Bakary Daou, directeur par intérim.
Suite aux inondations catastrophiques qui ont durement touché notre capitale Bamako, le 28 août 2013, il est apparu l'impérieuse nécessité d'associer la population aux actions de secours pour une meilleure efficacité de la mise en action de la chaîne de secours et conformément surtout au nouveau concept de la sécurité qui est la sécurité humaine, soutenue d'ailleurs par la réforme du secteur de la sécurité de notre pays.
C'est l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Mamadou Gaoussou Diarra, qui a parrainé cette formation pour une durée de plus de 2 ans.
Il y a des gestes, comme nous l'avons vu ici, qui arrivent à sauver parce que c'est des gestes qui sont utiles mais également urgents. Lorsqu'on appelle les pompiers, avant que les pompiers n'arrivent, si on ne pose pas les actes, les pompiers vont arriver trop tard.
Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile espère que cette initiative sera perpétuelle, car les jeunes, au-delà d'être des premiers secours, doivent être aussi des véritables relais d'information pour combattre le terrorisme. Colonel Major Salif Traoré.
Toute population qui n'est pas résiliente est vouée à l'échec. Et je sais que le peuple malien est un peuple combatif. La jeunesse de la commune 5 vient de donner le go, j'espère. Et nous espérons que tous les jeunes vont embrayer et qu'au-delà de la protection civile, les jeunes pourraient se constituer aussi. aussi en brigade de vigilance dans le cadre de la sécurité, et notamment dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Dans ce sens-là, qu'ils pourraient être des auxiliaires pour nous donner de bonnes informations qui pourraient nous permettre d'éviter toute attaque terroriste chez nous.
La cérémonie s'est achevée par des démonstrations en soins de premier secours et la remise des cartes aux 528 jeunes formés. Cette carte leur permet désormais d'intervenir en cas de besoin. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.